C'est l'histoire d'un homme en pleine décompensation. Un être malheureux qui ne sait plus ni qui il est, ni où il habite. Un pauvre hère dont on ne connaît même pas le nom. C'est comme si tout ce qui faisait sa vie avait été emporté par un raz-de-marée qu'il avait rejeté sur la rive, hagard, démuni, désorienté. Comme un naufragé, il erre en haillons et se nourrit de ce qui lui tombe sous la main. Il hurle son désespoir et de violents accès de fureur le défigurent. Il s'est réfugié dans le cimetière, là où plus personne ne peut le voir. Ironie du sort, c'est le seul endroit où il peut survivre, au plus près de la mort. Mais c'est le seul moyen pour lui d'échapper au regard apeuré qui le dévisage. Il ne supporte plus de voir toutes ces mères terrorisées qui prennent leur enfant par la main pour l'emmener loin de lui. Pourtant, ce monsieur était autrefois un homme convenable. Il avait une profession honorable, il était respecté de tous, il se sentait utile et intégré. Et puis un jour, tout a basculé. Une blessure à la main relativement grave et une incapacité d'exercer son métier d'artisan potier. La tristesse de ne plus pouvoir pratiquer son art et transmettre son savoir à ses apprentis. La honte de devoir dépendre de son frère aîné pour nourrir sa famille. La spirale infernale de la dépression, la perte du goût de vivre, le dégoût de soi, mais aussi des autres, de tous les autres, y compris de ses proches. Sa femme lui avait demandé de s'éloigner de la maison, car ses propres enfants avaient peur de lui. Voilà l'homme que rencontre Jésus. Non pas un possédé comme les films d'épouvante aiment à les imaginer, mais un cabossé de la vie, qui peine à trouver des ressources pour se relever. Un être divisé entre son désir de continuer la route et sa volonté d'en finir. Une personne qui n'a plus rien où placer sa confiance. Dans son errance au milieu des tombeaux, cet homme passe en revue toutes les manières d'être au monde qu'il a pratiquées. Il ressasse jusqu'à la nausée tout ce qu'il a été dans la société de son époque. Un maître artisan talentueux, un père de famille sévère mais juste, un mari aimant et soutenant. Il s'accroche à toutes ces identités qui ont fait autrefois sa fierté et il désespère de ne plus pouvoir les emprunter. Mais il ne voit pas comment être heureux autrement. Il a beau se dire que tout est fini, il est encore rempli de son passé et de cette aisance avec laquelle il savait correspondre aux attentes de son entourage. Alors quand il voit Jésus de loin, une espérance un peu folle germe en lui. Par le passé, il avait déjà eu l'occasion de l'écouter lorsqu'il prêchait en public. Il sait que l'homme de Nazareth n'a pas son pareil pour libérer les consciences malheureuses. Il aimerait que Jésus lui ouvre un autre chemin de vie. Il court vers lui. Jésus ne se comporte pas avec lui comme le reste du monde. Il n'a pas peur. Il le regarde droit dans les yeux. Mais notre homme sait aussi que suivre Jésus est exigeant. Il a rencontré un jour un de ses disciples qui lui a dit que sa vie avait radicalement changé depuis qu'il suivait son maître. Il ne sait pas s'il est prêt à une telle révolution. Lui, il voudrait plutôt revenir en arrière et retrouver sa vie d'avant, même s'il sait pertinemment que ce n'est pas possible. Alors oui, il est bien tourmenté au moment de demander de l'aide à Jésus. Mais Jésus a l'air sûr de ce qu'il fait. Il s'adresse à lui comme à une vraie personne. Il ne veut pas connaître son passé. Il ne juge pas ce qu'il est devenu. Il ne se réfère pas à tout ce qu'il a perdu. Il lui demande seulement son nom, ce qui veut dire qu'il le considère dans toute sa singularité, indépendamment des références qui l'ont qualifié autrefois. Mais notre homme ne sait pas qui il peut être, en dehors de tout ce qui faisait sa fierté par le passé. Il n'arrive pas à trouver une identité unifiée, plus forte que toutes les qualités qu'il a perdues. Il reste multiple, décomposé en une multitude de regrets et incapable de les abandonner pour autre chose. Néanmoins, une voix tente de se frayer un passage dans sa conscience meurtrie. Une voix qui lui suggère d'autres manières de tracer son chemin parmi les siens. Peut-être pourrait-il continuer à transmettre quand même son savoir-faire, même s'il ne peut plus travailler comme avant. Ses enfants lui manquent, peut-être leur manque-t-il aussi. Il pourrait essayer de redevenir un père pour eux, penser un peu moins à ses malheurs et un peu plus à leur bonheur. Il pourrait aider sa femme à la maison, plutôt que de pleurer la disparition de son pouvoir économique. En même temps, il craint d'avoir définitivement perdu la considération de ses proches et de n'être pas assez fort pour soutenir les regards désapprobateurs et apitoyés qui se poseront immanquablement sur lui. Pourquoi est-ce si difficile d'être soi ? Qu'à cela ne tienne, dans une scène qui frise le grotesque, Jésus envoie paître ses obsessions avec les porcs du champ voisin et balance le tout à la mer. C'est une manière assez énergique d'appeler notre homme à la libération. Les porcs représentent l'impureté, c'est-à-dire tout ce qui éloigne de Dieu et ce qui empêche de recevoir la vie qu'il donne. La mer représente le chaos, le désordre, qui s'oppose à la cohérence. Elle est à l'image du récit de la vie de cet homme, sans dessus-dessous, complètement déstructuré, privé de sens. Légion n'offre aucune résistance. Ce qui montre bien que cette histoire n'est pas celle d'un combat des forces du bien contre les forces du mal, dont le possédé de notre histoire serait la victime. Ce sont ses pensées à lui qui posent problème, car elles l'empêchent d'accueillir la bonne nouvelle d'un royaume où une place lui est réservée quoi qu'il arrive, et sans qu'il l'ait mérité. Un royaume où il peut se sentir unique et unifié, même s'il a perdu ce qui faisait jadis sa fierté. Jésus propose à notre homme de recevoir sa vie de Dieu, une vie plus large et plus forte que toutes les menaces, une vie qui relativise les parcours de réussite convenus et les recettes d'un bonheur qui n'est celui de personne en particulier. Jésus lui montre comment vivre dans le monde sans s'y dissoudre. Vous aurez noté que notre homme n'est au fond pas très différent de vous et moi. On peut se sentir assez proche de lui. On se dit qu'on aurait pu être à sa place. Et ce n'est pas un hasard. Parce que si cet homme avait été un parrain de la mafia ou un escroc sans vergogne, son histoire aurait été une fable avec une jolie morale, mais elle ne nous aurait pas tellement concernés. On aurait trouvé normal qu'il entre en crise, on se serait réjoui de sa conversion, on se serait dit que décidément, Jésus n'a pas son pareil pour ramener les gens dans le droit chemin et que tout est bien qui finit bien. Mais cette histoire est évidemment beaucoup plus complexe. Le personnage de cette histoire, c'est vous, c'est moi. C'est potentiellement chacune et chacun d'entre nous. Nous avons tous nos lieux de fierté. Nous avons tous nos qualités que nous brandissons comme autant de cartes de visite. Nous avons tous nos savoir-faire, qui sont autant de laissés-passer pour entrer dans la grande comédie du monde qui nous entoure. Et puis nous avons aussi des sujets de honte qui nous collent à la peau, et ceux-là, on aimerait bien s'en débarrasser. Et puis aussi, nous avons nos sentiments d'injustice qui ont creusé des puits d'amertume en nous-mêmes à chaque fois que nous avons eu le sentiment de manquer de reconnaissance. Notre monde est le théâtre de luttes sans fin pour la reconnaissance. Il n'est pas rare que des groupes de personnes se retrouvent opprimées et se battent pour faire respecter leurs droits. Souvent, leur combat devient le terreau d'une prise de conscience. Des êtres humains se rendent compte alors que l'identité qu'on leur a attribuée et qu'ils ont adoptée tout au long de leur vie les empêche de vivre librement. La lutte est le signe d'une prise de conscience, mais elle n'est pas suffisante pour conduire à la liberté. La parole de Jésus libère, car elle nous aide à vivre avec un horizon ouvert. Il y a un avenir, au-delà de tout ce qui fait notre vie d'aujourd'hui. Un avenir tissé d'amour et de reconnaissance. L'Évangile ne vient pas nous offrir une identité de plus à ajouter à la longue liste des manières d'être au monde. L'Évangile nous est annoncé pour guérir notre intériorité, pour réveiller notre personne tiraillée entre ce que nous pensons devoir incarner et ce que nous sommes, pour susciter notre conscience qui se trouve écartelée entre des attentes multiples et impersonnelles. L'Évangile ne vient pas nous constituer comme un groupe, comme les adolescents qui forment une bande ou des clubs qui se réunissent autour de valeurs communes, ou encore des partis politiques qui se regroupent autour d'une même vision du monde. Non, c'est parce que nous avons été guéris de notre volonté de gagner la reconnaissance du monde que nous pouvons nous tourner les uns vers les autres et nous inviter mutuellement à suivre le chemin risqué sur lequel nous appelle Jésus. C'est parce que nous sommes les uns pour les autres le reflet d'un amour qui nous est donné sans condition que nous pouvons former une communauté. Cette communauté est ouverte à toutes et à tous, parce que l'amour qu'il apporte est offert à toutes et à tous, sans distinction. C'est pour cette raison que Jésus renvoie l'homme libéré chez lui. Il ne veut pas qu'il trouve refuge dans sa nouvelle identité de disciple. Il ne veut pas créer de relation de dépendance entre cet homme et lui. Il a libéré sa conscience pour qu'il accède à la responsabilité. Il a libéré sa conscience pour qu'il transmette le goût de la liberté à ses semblables. Il a libéré sa conscience pour qu'il retrouve une capacité à tenir la porte de l'avenir ouverte. Jésus n'est pas sauveur à la manière d'un super-héros qui délivre des personnes incapables de se débrouiller par elles-mêmes. Et la façon dont il nous sauve ne nous garantit pas une vie facile et sans questionnement, car nous serons toujours tentés de nous réfugier dans des identités rassurantes et figées. Le chemin de liberté que Jésus ouvre sous nos pas n'est pas le plus évident. Est-ce que je peux imaginer une vie dans laquelle j'aurais perdu mes capacités? Est-ce que je peux vraiment vivre de cet accueil qui m'est offert et le faire rayonner autour de moi? Est-ce que je peux baisser la garde et croire que mon oppresseur peut devenir un ami? Les villageois qui voient cet homme redevenu serein ont peur, car soudain ils se rendent compte qu'il n'est pas différent d'eux. Tant que la souffrance le rendait fou, ils pouvaient se dire qu'il n'était pas comme lui. Mais il n'y a pas de barrière étanche entre cet homme et ses voisins. Eux aussi ont placé leur sécurité dans des identités fragiles et menacées. Ils savent bien que l'équilibre de leur vie n'est pas inébranlable. Eux aussi sont appelés à marcher sur le chemin étroit de la confiance. Mais ils ne sont pas prêts, alors ils repoussent Jésus loin de leur espace de vie. Il y aura toujours une part de nous-mêmes qui voudra se réfugier dans des évidences rassurantes et qui refusera de sacrifier ses fausses sécurités à la vie qui nous est offerte. Une part de nous-mêmes qui refusera de croire qu'une même reconnaissance peut être offerte à tous. Cette part de notre conscience a condamné Jésus et elle a voulu qu'il meure. Mais la mort n'a pas eu le dernier mot. Et depuis ce jour, La porte de nos tombeaux est restée ouverte pour nous envoyer toujours à nouveau vers la vie. Amen.